Nous allons sans plus tarder nous tourner dans la lettre de Paul à Timothée. Comme je le rappelais la semaine dernière, cette lettre ainsi que la deuxième lettre de Paul à Timothée et la lettre de Paul à Tite composent ce qu'on appelle les épîtres ou les lettres pastorales. Et c'est vrai que Timothée et Tite étaient deux jeunes pasteurs qui avaient besoin d'encouragement, de suivi. Et l'apôtre Paul, par ses lettres, visait à les former, les fortifier, les encourager. Vous vous dites peut-être que c'est seulement une lettre pour les pasteurs. Eh bien non. Il est toujours important de repérer dans un passage de la Bible les versets ou les phrases qui disent « Voici pourquoi j'écris ce que j'écris ». Et dans notre cas, ça se trouve dans 1 Timothée 3, 14 et 15. Paul dit à son disciple et jeune pasteur, « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Cette lettre, elle a pour but de nous apprendre à comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Tout un programme. Et nous allons voir qu'il y a beaucoup d'instructions pratiques, des instructions spirituelles dans cette lettre et celle qui suivra, et aussi celle de Tite, que nous étudierons probablement plus tard. Nous avons rappelé que lorsque l'on regarde le livre des Actes qui décrit les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, on s'aperçoit que lors de son premier voyage, Paul a été attiré ou guidé, amené à passer dans un petit bled au milieu de l'Asie mineure, Lystra. Et c'est là qu'habitait ce jeune homme. On pense que c'est par l'influence de la prédication de Paul qu'il s'est converti. Lors de son deuxième voyage, on a vu ça la semaine dernière, je ne vais pas rentrer dans le détail, il a retrouvé Timothée et Timothée a commencé à le suivre. C'est ça, être disciple. Un disciple, en hébreu, c'était le mot d'être un étudiant. En grec, c'est le mot mathétès, mathématique, vient de la même racine. C'est ce qui s'apprend et ce que l'on suit. Être un disciple, c'est pas seulement dire je viens une fois par semaine à l'église ou au culte. C'est recevoir l'enseignement de quelqu'un et en faire sa règle de vie. Donc être un disciple de Jésus-Christ, c'est recevoir l'enseignement de Jésus-Christ, c'est recevoir l'enseignement de la parole. Et de toute sa force, avec l'aide de Dieu, s'engager à suivre ses enseignements et surtout à suivre cette personne, plus que suivre des règles de vie. On va les suivre, ces règles de vie, si on suit la personne. On a rappelé aussi que c'était étonnant de se demander pourquoi est-ce que Paul était passé dans ce coin un peu perdu. Et il y était repassé, il devait se demander « Mais qu'est-ce que je fais à repasser par ici ?» Et en fait, on a rappelé une vérité qui est décrite, c'est que Timothée, c'était un bâtard. C'est ce que veut dire l'expression « Son père était grec et sa mère était juive ». Souvent, on ne remarque pas ce passage, on dit « Bon, ben, moi j'ai... Ma mère est Lorraine, mon père est Corse. D'autres vont dire, comme Tonio, mon père est parisien et ma mère est de Seattle. Mais en fait, ce sont des mots chargés de sens. Ça veut dire qu'il n'était pas accepté dans la communauté juive de sa ville. Il ne pouvait pas participer à l'enseignement, recevoir l'enseignement. Il n'a pas pu être circoncis. On va voir que Paul va le circoncire. Et donc, c'était quelqu'un qui était une personne rejetée. Et pourtant, de ce bâtard, de cette personne rejetée, Dieu va faire l'un des plus grands disciples, l'un des plus grands pasteurs de l'Église du premier siècle, de l'Église naissante. Et on a parlé de ça aussi en disant que la grâce de Dieu, elle aime avoir des trophées. Paul était un trophée pour Jésus. Lui, qui était un persécuteur de l'Église, il va en faire son plus grand apôtre, celui qui va écrire 13 des 27 lettres du Nouveau Testament, si on considère que ce n'est pas lui l'auteur de la lettre aux Hébreux, ce qui n'est pas garanti. Et là, avec ce jeune homme qui avait plein de problèmes, dû sans doute à son histoire, mais aussi à son caractère, c'était quelqu'un de timide, c'était quelqu'un qui était jeune, lorsque Paul vient l'encourager à être pasteur, Dieu va en faire quelqu'un de remarquable. Et ça veut dire que Dieu peut se saisir de n'importe lequel d'entre nous, n'importe laquelle d'entre nous, et en faire quelque chose qu'il utilise puissamment pour son royaume, pour annoncer l'Évangile, pour l'illustrer, pour le mettre en avant. Paul parle de Timothée comme de son enfant légitime en la foi, parce qu'il était celui qui l'avait conduit à Jésus, et il avait la plus haute estime pour ce jeune homme. Il disait de lui dans Philippiens 2, 19, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer aussi bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que comme un enfant auprès de son Père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. » Jésus disait « Imitez-moi comme j'imite le Seigneur Jésus. » Et on peut dire que Timothée l'avait fait au point que Paul disait « Je ne peux pas venir tout de suite, mais je vous envoie Timothée et c'est pareil. Vous allez être encouragé. » C'est quelqu'un qui a des motivations complètement pures. Et donc dans cette lettre que Paul lui envoie, on pense que Paul était en prison et que on a vu aussi la semaine dernière que c'était sans doute lors de après sa première libération, Paul avait été enfermé à Rome. On le sait par le livre des Actes, dans une maison assignée à résidence dans une maison. Mais on pense, en regardant les épîtres et ce qui s'y passe, que Paul a été libéré et qu'il a pu voyager, revenir en certains lieux. Et il explique, on va lire ensemble à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation C'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime et que l'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est en outre à l'opposé de la sainte doctrine. D'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Nous allons nous arrêter là. Paul dit à son protégé, reste à Éphèse. On peut penser que si il l'encourage ainsi, c'est qu'il y avait chez Timothée le désir peut-être de quitter ce ministère difficile auquel Paul l'avait confié, que Paul lui avait confié, de prendre l'église de Éphèse. L'église d'Éphèse, c'était un endroit où Paul était, plutôt la ville d'Éphèse, c'était l'endroit où Paul était resté plusieurs années, 3 ans, et il avait enseigné, et il avait vraiment formé une église, mais quand il était parti, il avait eu peur que des faux docteurs ne viennent enlever le précieux dépôt qu'il y avait fait avec la sainte doctrine. Dans le livre des Actes, Paul fait un discours d'adieu aux anciens de cette église d'Éphèse. Et il leur dit, à partir du verset 20, acte 20:20, « Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. » Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Il n'a pas pris des sujets favoris, il a pris la Bible qu'il avait en sa possession à l'époque, c'était bien sûr pas tout le Nouveau Testament terminé, mais il a annoncé tout le dessein de Dieu. Pour annoncer tout le dessein de Dieu, on ne peut pas prendre des passages au hasard. C'est un peu pour cela que nous aimons bien étudier la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, pour ne rien oublier. Prenez donc garde, verset 28, à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant, c'est ce que veut dire le mot, épiscopos, l'épiscopat français, ça veut dire regarder, surveiller d'en haut. Ça montre la responsabilité des bergers, des sous-bergers que sont les pasteurs, les responsables d'église sous le grand berger qu'est Jésus, pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu, un Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est pas facile à expliquer, mais c'est clairement démontré, c'est clairement explicité dans la Bible. Verset 29, je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et puis, Paul les quitte. Mais on dirait que cette prophétie de Paul, cette vision, cette assurance qu'il allait avoir des faux docteurs, s'est réalisée. Et c'est dur pour Timothée de s'opposer à ces faux enseignements. D'autant que c'est un jeune homme. Il y a peut-être des gens qui se réclament de Paul, qui disent « Oh, mais moi j'avais déjà 30 ans, 40 ans quand Paul est venu, j'ai tout compris ». Mais encore une fois, c'est pas l'âge qui importe, c'est votre progression avec le Seigneur. C'est pas combien de temps vous avez été sur la route qui compte, c'est combien de kilomètres vous avez parcouru, combien vous avez progressé. Et c'est pour ça, comme pour le prophète Jérémie, qui ne voulait pas se laisser envoyer par le Seigneur parce qu'il lui disait qu'il était trop jeune. Dieu ne demande pas que l'on soit vieux pour nous utiliser. Dieu merci. C'est une grâce qui peut nous utiliser même lorsque les cheveux sont blancs ou qu'ils sont partis. Alléluia. Comme je t'y ai exhorté, je t'y ai encouragé, je t'ai fortement conseillé à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner n'importe quoi. On vit dans un monde où il est de bon ton, il est tout à fait, même dans l'Église moderne, la louange, les moyens modernes de technique, les systèmes son, les vidéos, tout ça c'est cool quoi. Mais la doctrine, on veut pas embêter les gens avec la doctrine. La doctrine, c'est bon pour les séminaires, c'est bon pour les études de théologie. Oh là, la théologie, les théologiens qui vivent dans leur tour d'ivoire et qui font des livres de théologie systématique, etc. La doctrine, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est pas quelque chose de bizarre, d'abscon. Je sais même pas si c'est un mot français, je crois que c'est un vieux mot français, hein, les choses compliquées. Non, la doctrine, c'est qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que j'ai reçu comme enseignement? Et je vous encourage à faire tous vos efforts pour savoir ce que vous croyez. Je dois dire que je suis souvent un peu déçu par le manque d'intérêt pour les études bibliques. Les gens sont prêts à se retrouver sur la plage, dans la vieille ville, autour d'une chicha, dans la communion fraternelle, et des fois, l'absence de doctrine est affligeante. Je veux vous mettre en garde. C'est pas parce que quelqu'un se trouve dans cette salle, ou vient à l'église, ou est un habitué qu'on voit au pique-nique qui est là, que cette personne est nécessairement d'abord sauvée, qu'elle est nécessairement connaissante de la doctrine chrétienne. Et si vous écoutez ce que vous disent ces personnes, exercez le discernement. Soyez vous-même connaisseur de la Bible. On explique que à la Banque de France, les personnes qui sont chargées de reconnaître les faux billets, maintenant il y a des moyens modernes avec des rayons laser qui permettent de voir les filigranes et qui permettent de réfléchir ou pas. C'est une chose, mais le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour reconnaître les faux billets, c'est le toucher. Et on apprend aux gens à reconnaître les faux billets, pas en leur faisant étudier tous les faux billets du monde, mais en leur faisant toucher, froisser, tenir, entendre des vrais billets. De sorte que lorsqu'il y a un faux billet qui se présente, oh, ça, il y a quelque chose là. Peut-être que vous avez déjà eu dans vos mains un faux billet. C'est embêtant parce que c'est pour vous. On peut pas. Ils vont pas vous repayer à la Banque de France la valeur du billet, mais vous savez que c'est pas un vrai billet. Vous savez qu'il y a quelque chose. Et la doctrine chrétienne, c'est la même chose. Si vous ne connaissez pas la vraie doctrine chrétienne, vous allez être victime du premier venu qui va vous dire « Mardi soir, les boiteux vont marcher, les gens vont être guéris à tel endroit. » Et je dis ça, c'est pas une coïncidence. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de une annonce dans une église de notre ville qui va faire des miracles. On sait que le Saint-Esprit va avoir rendez-vous. Il a été convoqué mardi prochain à telle heure. Et la plupart de nos bons chrétiens, oh, chouette alors, alléluia, on va aller se faire guérir. Il faut faire de la pub. Où est le discernement? Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que c'est dans la Bible, Jésus guérissait? Dans Jacques 5, il est dit que si vous êtes malade, vous n'allez pas voir le grand guérisseur qui a fait des miracles partout dans le monde. Vous appelez les anciens. Et les anciens vont prier avec l'onction d'huile. Et la foi du juste a une grande efficacité. Dieu a horreur de l'orgueil. Si vous cherchez à vous élever, il va vous abaisser. Si vous vous humiliez sincèrement, il va vous relever dans sa grâce et sa bonté. L'avantage d'appeler les anciens pour prier pour vous, c'est que c'est les anciens qui vont prier. C'est pas tel béni machin ou béni oui-oui qui va vous guérir et qui va recevoir la gloire. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas espérer avoir du discernement. Et vous allez être les victimes de la nouvelle mode. On en a vu des modes passer. Le blessing de Toronto. Waouh ! Quel sacrilège ! Donner au Saint-Esprit la responsabilité de la pagaille dans l'Église et d'empêcher que sa parole soit annoncée parce que les gens se roulent par terre ou sont pris d'un rire incontrôlable. Si ces feux de paille peuvent commencer à brûler, c'est parce que les chrétiens ne connaissent pas la parole. L'esprit des prophètes est soumis à l'esprit. On fait pas n'importe quoi dans l'Église. Et donc, le premier conseil que Paul va donner à Timothée pour ce qui doit se passer, comment il faut se conduire dans l'Église de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est de la saine doctrine. Et là, il lui dit, je veux que tu restes là-bas pour pas qu'il y en ait qui commencent à se lever et qui racontent n'importe quoi, qui enseignent d'autres doctrines. C'est un mot qui veut dire enseigner autre chose. Et il va expliciter ce genre de fausses doctrines qui pullulaient. et pour lesquels il appelle solennellement ce jeune pasteur à rester fidèle. Il n'avait peut-être pas beaucoup de prestance, il n'avait peut-être pas beaucoup d'éloquence, mais ce qui compte, ce n'est pas la prestance, ce n'est pas l'éloquence, c'est la juste doctrine. C'est de raconter la vérité et non pas des histoires. Et il dit justement, ces gens, ils s'attachent à des fables. C'est le mot mythe. Des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Les fables, ça consistait à raconter des histoires qui n'avaient rien de biblique, qui n'étaient pas dans la Bible, mais qui attiraient l'attention des gens, qui faisaient fantasmer, qui faisaient rêver les gens. Et c'était comme de la mythologie. Si vous avez déjà dans votre enseignement, peut-être en sixième, je ne sais plus quand est-ce qu'on fait ça maintenant, entendu parler des mythologies, de la mythologie grecque et romaine, il y avait tout un panthéon, toute une série de dieux, et il y avait des histoires. Mais quand on lit ces mythes, ça n'a rien à voir avec la Bible. Est-ce que vous avez déjà réalisé que la Bible, ce n'est pas du tout un livre de mythologie ? C'est pas un beau jour, il y avait, non, c'est des, en l'année où tel proconsul régna à Jérusalem, voici ce qui se passa. La troisième du roi, année du roi Assa, voilà ce qui s'est passé avec les, c'est de l'histoire. Ce sont des récits authentiques. Ce sont des récits dignes d'être crus. Mais là, les fables, on peut raconter toutes sortes de choses. Et des généalogies sans fin. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ? On dit que lorsque les anges veulent... Nous, quand on veut rire un peu, on regarde les guignols. Ou on écoute Nicolas Canteloup. Ou Gérard, les imitateurs, et on rit un peu. On dit que les anges, lorsqu'ils veulent rigoler un bon coup, ils lisent les commentaires bibliques. Parce que les commentaires sont faits par des hommes. Et chacun y va de sa petite idée. Alors ça peut être intéressant, mais encore une fois, si c'est pas dit dans la Bible, c'est pas la peine de se mettre martel en tête, de chercher à tout prix à savoir ce qui se passe. J'aime bien citer dans le Deutéronome 29-28, c'est plus facile dans la Bible anglaise parce que c'est 29-29, en français c'est 29-28, je crois, ou 29-28, oui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a des choses que Dieu n'a pas choisi de révéler, et généralement ce sont les choses qui nous captivent, ce sont les choses qui attirent notre attention. Dieu nous dit, je vous ai déjà révélé pas mal de choses, mettez-les en pratique, enseignez-les à vos enfants et tout ira bien, sous-entendu. Mais l'homme étant l'homme, il oublie ce qui est clair et qui le reprend souvent. C'est l'humoriste américain Mark Twain qui disait « Ce qui me gêne dans la Bible, ce n'est pas les passages que je ne comprends pas, c'est les passages que j'ai compris. » Ça devrait être notre attitude. Il y a plein de choses qui sont claires. Est-ce que je les respecte ? Est-ce que j'y obéis ? Ou est-ce que je prends le prétexte de, de chercher des choses plus compliquées qui ne sont pas clairement révélées pour détourner l'attention de mon péché. Ça, c'est facile, ça. Des fables, des généalogies sans fin. Alors là, encore une fois, il y a autant d'interprétations que de commentaires qui ont été écrits sur ce passage. Certains font allusion au fait que les Juifs essayaient d'établir leur autorité après les exils à Babylone et en Assyrie. Ils essayaient de se dire, en fait, moi je descends de telle tribu et voilà ce que on enseignait, voilà ce qu'il faut croire. Donc les gens essayaient de se rapprocher de Moïse par leur généalogie pour donner du poids aux choses qu'ils annonçaient. Il est vrai que dans la culture juive, il y a ce qu'on appelle la culture rabbinique, où il y a plein d'histoires qui sont, certaines sont vraies, mais il y a beaucoup de légendes qui ont peut-être au départ une base historique, mais qui sont embellies, qui sont démultipliées en des tas d'histoires. C'est intéressant que Dieu a donné aux hommes les 10 commandements, au peuple juif, il a donné les 10 commandements. Les 10 commandements ont été... Avec les 10 commandements, il y avait tous les commandements de l'Ancien Testament. On dit, je crois qu'il y en avait près de 635, je crois. Mais on a commenté ces commandements. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le Talmud composé de la Gemaria, ou la Gemaria, c'est pas une sainte vierge homosexuelle, rassurez-vous. La Gemaria, et puis la Mishnah. Et c'est des commentaires sur les commentaires. Et on arrive à quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a toute une littérature, on appelle ça la littérature rabbinique, qui est très intéressante et qui donne des tas d'informations sur, et qu'il faut déchiffrer entre ce qui est historique, ce qui est culturel, ce qui apporte des informations sur la culture juive des premiers siècles, à l'époque de Christ, etc. Et tout ça, en fait, ça a pour résultat quoi ? De favoriser les discussions. Nous, en France, on est très fort pour les discussions. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir été chrétien plus tôt dans ma vie. Et pourtant, j'ai entendu parler de grands thèmes quand j'étais au lycée. On parlait des jansénistes. On parlait de Pascal et des provinciales qui parlaient de la grâce suffisante, de la grâce insuffisante. Mais jamais on m'a présenté la grâce de Jésus. On m'a présenté les discussions, les disputes qui se passaient à ces sujets, tout en occultant la simple réalité que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Les Français, on aime bien discuter. On aime bien changer le C en P et se disputer. Une émission, c'était « Ça se discute », c'est souvent plutôt « Ça se dispute ». On aime bien, il suffit de regarder n'importe quel discours, quelle table ronde politique ou scientifique, les gens adorent se disputer. Et on sort de là, on a écouté ces discussions et franchement, on n'a pas avancé d'un poil. On n'a rien appris, on a vu les gens se disputer, l'organisateur ou le chef de cérémonie qui a beaucoup de mal à calmer tout le monde, et la station a rempli un créneau d'une demi-heure, voilà, c'est bon. Et plus ça se dispute souvent, et plus ça attire du monde parce qu'on aime bien prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Ça, c'est dans le domaine profane. Mais dans le domaine spirituel, dans le domaine de la foi, il y a aussi plein de mythes. Il y a les miracles de l'Église catholique. Les miracles, les apparitions de la Vierge Marie. Et on le sait puisque Bernadette l'a raconté. Tout ça, c'est des mythes qui peuvent être vraiment perçus par la personne parce que Satan est un ange de lumière qui peut se déguiser et nous faire avaler n'importe quoi. Il est dit même que dans les derniers temps, il s'en faudra de peu que les justes ne soient trompés eux-mêmes, ne soient eux-mêmes trompés par Satan. Alors on parle des catholiques et de leurs miracles. Mais chez les protestants évangéliques aussi, on a des guérisons miraculeuses. Des gens qui avaient des dents artificielles en porcelaine. Et gloire à Dieu, miracle des miracles, les dents se sont transformées en dents en or. Imaginez ça, Dieu est si bon. Attendez, si Dieu est bon, il peut guérir la dent malade en une dent saine. Est-ce que vous préférez une dent en bonne santé ou une dent en or? Il y a aussi une époque, et ça c'est, ce qui est drôle c'est qu'on en parle, ça devient ce qui attire les gens. Oh, Dieu est à l'œuvre dans telle église. On aboie, on ne peut plus s'empêcher de rire. Et puis maintenant il y a de la poussière d'or qui tombe. Oh, de l'or, chouette alors. Et puis on admet en fait que on a regardé et en fait c'était pas de la poudre d'or, c'était simplement de la poudre qu'ils avaient pris à l'école du dimanche, la poudre dorée. Et quand on demande aux pasteurs de ces églises pourquoi d'un seul coup c'est pas de l'or mais de la poudre qu'ils ont piquée à l'école du dimanche, il explique qu'en fait ces gens n'avaient pas assez de foi. Et donc Dieu n'a pas pu leur donner de l'or véritable, il leur donnait seulement de la poudre de l'école du dimanche. On sourit, mais est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes capables de tomber dans ces imbécilités parce que nous n'avons pas connaissance de la saine doctrine? Et donc, il dit à Timothée, je veux que tu restes là pour faire le ménage et empêcher qu'on raconte n'importe quoi. Et souvent, les gens me disent, mais Pierre, tu manques d'amour. Et j'aime dire que c'est pas, je n'ai rien contre la personne qui peut enseigner ces choses. C'est, sauf qu'elle est véhiculée, elle véhicule ses mensonges. Et c'est surtout à l'enseignement qu'il faut s'attaquer. On peut espérer que les personnes sont de bonne foi, mais trompées de bonne foi, parce qu'elles n'ont pas reçu un enseignement solide biblique. Paul explique que le but de cette recommandation, de cette exhortation, de cet enseignement, c'est une autre façon de traduire, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Ça, c'est un verset que vous pouvez mémoriser. Ce qui compte, c'est pas de pouvoir s'enrichir parce que d'un seul coup on a une dent en or qu'on pourrait arracher et vendre au monde piété. Le but de tout l'enseignement de Paul, et on pourrait dire de l'enseignement de la Bible, c'est l'amour. Si on doit se disputer avec des frères pour faire passer tel ou tel point de vue. Alors c'est pas ce que Dieu attend de nous. Et moi-même, je me reprends souvent, ou Dieu plus exactement me reprend, lorsque dans le désir d'annoncer la saine doctrine, la vraie doctrine, ce que je crois de tout mon cœur, avec des bases partagées par la majorité des chrétiens sérieux, je dois me reprendre pour ne pas avoir de la colère. Pas plus tard que la semaine dernière, je me suis gentiment, pas contre la personne, mais contre ce qu'il me proposait, je me suis emporté. Et s'il m'écoute, je lui demande pardon. Ce n'est pas quelqu'un qui est ici, mais qui peut-être entendra cette cassette, cet enseignement. Il faut qu'il y ait l'amour. L'amour agapé. L'amour que Paul a décrit dans 1 Corinthiens 13, le mot agapé existait déjà, mais il n'était pas très utilisé. C'est les chrétiens qui l'ont remis à l'honneur ou en pratique. Dans 1 Corinthiens 13, Paul disait, cet amour agapé, cet amour qui vient de Dieu, il est patient, il est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Parlant du retour de Jésus, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était d'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est cet amour agapé. Ce verset 5 que je vous encourage à retenir, c'est un de ces passages qui nous donne la clé de cet amour agapé. On sait que dans Romains, on l'a vu en étudiant Romains, au chapitre 5, verset 5, il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour agapé, ce n'est pas un amour qu'on peut manufacturer tout seul. J'essayais de faire ça lorsque j'étais jeune catholique et que le samedi soir, je sortais du confessionnal. Il fallait que je tienne jusqu'au lendemain matin à la messe pour pouvoir recevoir l'hostie sans me faire foudroyer par Dieu. Et donc, il fallait que je ne commette aucun péché. Et donc, je sortais du confessionnal, j'étais paniqué. Et j'essayais, je me disais, je vais penser du bien de chaque personne. Et je voyais les gens dans la rue et je disais, je les aime. Qu'est-ce que je les aime ? Le soir, c'était moi qui faisais la vaisselle. J'essayais de ne pas avoir une seule mauvaise pensée, une seule mauvaise réaction. J'essayais de manufacturer cet amour. Et avant que j'aie fini la vaisselle, je me disais, qu'est-ce que je suis gentille ? Et je savais que j'avais tout perdu. L'orgueil m'avait rattrapé. C'est l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour, il vient, il nous dit ici, On sait qu'il vient du Saint-Esprit, mais il vient d'abord d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sans hypocrisie. Un cœur pur. Est-ce que mon cœur est pur? Ou est-ce que je fais les choses par intérêt? Peut-être que je donne l'aumône au SDF qui se trouve sous le pont, pas loin d'ici. Est-ce par amour ou pour me donner justement la possibilité d'aller faire un bon repas sans avoir trop de culpabilité en pensant à ces gens qui n'ont pas à manger. Le cœur pur, c'est de notre cœur que viennent les issues de la vie, il est dit dans la parole. Notre cœur, il est désespérément méchant, nous dit Ézéchiel. Il faut qu'il soit purifié par Dieu. On peut essayer de croire que notre cœur est pur, mais il faut le donner à Dieu pour qu'il le purifie. Premier élément, si on a le cœur pur, on va pouvoir aimer comme dans 1 Corinthiens 13. Ensuite, il faut une bonne conscience. La conscience, c'est ce qui nous guide intérieurement. C'est comme une petite boussole qui nous dit « Non, ça, c'est pas bien. Oui, ça, c'est bien. » C'est ce qui fait que on peut avoir mauvaise conscience lorsqu'on fait quelque chose de mal. Cette conscience nous dit « Non, ce que tu fais n'est pas bien. » Paul dit même que ce principe moral, cette boussole morale qui est dans nos cœurs, c'est un des deux éléments qui prouvent l'existence de Dieu. Ça a été repris par le grand auteur anglais C.S. Lewis, qui montrait qu'en fait, s'il n'y avait vraiment pas de Dieu, alors il n'y aurait pas de bien ni de mal. Si on est vraiment un résultat d'une explosion cosmique, sans dessein supérieur, alors pourquoi s'attacher à faire certaines choses qui seraient bien et d'autres qui sont mal, et éviter d'autres qui sont mal? Dieu a placé cette conscience en nous, en chaque homme. Deuxième élément qui est une preuve objective qu'on peut voir de l'extérieur, c'est la création qui nous entoure. Je remercie James qui nous montre avec les paroles des chants des images de la beauté de la création de Dieu. Parce que lorsqu'on admire la création, on ne peut pas s'empêcher de louer le Créateur. Si je fais un poème pour Nancy et qu'elle le mette dans un cadre et qu'elle l'accroche au mur et puis qu'elle dise aux visiteurs « Regardez ce poème comme il est beau. Il est merveilleux ce poème. Je l'adore, ce poème. » Sans faire référence à qui l'a écrit, quelque part, je vais être déçu, peut-être en colère même. Et Dieu, c'est pareil. La nature, c'est sa création, c'est une beauté. L'infiniment petit, l'infiniment grand sont des preuves qu'il y a un Dieu qui existe. On sait qu'un Airbus A380. C'est pas le résultat de l'explosion AZF dans les hangars d'Airbus à Toulouse. C'est pour rapprocher les deux catastrophes. À l'époque, les Français espéraient que c'était peut-être Al-Qaïda aussi, mais c'était seulement des produits chimiques qui avaient explosé. On sait qu'il y a une intelligence, il y a de la recherche, il y a du travail. Et de la même façon, même Voltaire, le grand philosophe qui a fait tant de mal à la foi chrétienne, disait qu'il ne pouvait pas concevoir une horloge sans horloger. Mais cet autre élément, c'est cette bonne conscience. Et c'est vrai qu'une boussole, c'est un instrument délicat. Quand vous faites les premières expériences de physique, on vous montre que si on fait passer un courant ou un aimant, la boussole va, un électro-aimant, la boussole va être attirée dans une direction qui n'est pas la direction du nord qu'elle donne au premier abord. Et de la même façon, si on nie, et en refusant d'obéir à notre conscience, à ce moment-là, cet instrument délicat va se fausser. Ce qui explique que des hommes puissent arriver à commettre des atrocités. Des choses qui paraissent inimaginables quand on a une conscience pure ou une conscience qui fonctionne. Au bout d'un moment, si on la viole, et on verra que Paul parle de cela plus loin, on peut cautériser, on peut brûler cette conscience. Et puis, il faut avoir une foi sans hypocrisie. Il ne s'agit pas de prétendre qu'on croit à Dieu. Dieu acceptait la prière des gens qui disaient « Dieu, aide ma foi, je manque de foi ». La foi qui est un Dieu qui existe et qui nous aime et qui est venu se sacrifier en Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie éternelle si nous acceptons ce sacrifice. Et au-delà de l'Esprit Saint, il faut avoir ces trois choses pour qu'il y ait un amour véritable qui naisse. Vous avez remarqué, quand vous n'avez pas bonne conscience, vous pouvez répondre brutalement aux gens qui vous questionnent. Si vous n'avez pas une foi complète, vous ne pouvez pas vous abandonner à l'amour que Dieu veut verser dans votre cœur. Si vous entretenez des mauvaises pensées, si vous cultivez l'impureté, là aussi vous ne pouvez pas avoir cet amour prêt à être une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Et il explique, verset 6, « Quelques-uns, étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, et que l'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés. » Il suit là avec toute une série de pécheurs qui recoupent, si vous regardez l'Exode, les 10 commandements, l'Exode 20 ou 12. Et il dit, si on se détourne de ces choses, s'il n'y a pas d'amour, alors on peut se perdre dans des vaines discussions. Au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on a appelé, chez les catholiques, il y avait la philosophie, la scolastique. C'était des érudits qui se posaient des questions. Une de ces questions, c'était combien d'anges pouvaient danser sur la tête d'une épingle. Où on se demande, est-ce que Dieu peut créer un rocher si lourd qu'il ne pourra plus le soulever? Puisque Dieu peut tout, il doit pouvoir faire ça. C'est ce qu'on appelle couper les cheveux en quatre, et ça, ça permet de détourner du cœur pur, de la bonne conscience, une foi sans hypocrisie qui conduit à l'amour qui est la clé. L'amour entre nous, par lequel tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus. Il dit que certains de ces personnes à Éphèse voulaient être docteurs de la loi. Un titre très pompeux. Ils veulent avoir un doctorat en théologie. Mais ils ne comprenaient même pas de ce de quoi ils parlaient. Raphaël est en train de travailler à la mise en page de ce livre qu'on a traduit de l'anglais, de Chuck Smith, sur « Sagesse pour aujourd'hui ». Et dans l'introduction, il est question de la connaissance qui a une grande valeur dans notre société. C'est pour ça qu'on veut faire des études. On espère que comme ça, on comprendra mieux les choses, on pourra avoir des métiers plus intéressants qui rapporteront de l'argent, qu'on contribuera à repousser les mystères de la science. Mais très justement, dans cette introduction, ce pasteur fait la distinction entre la connaissance, les connaissances, le savoir et la sagesse. Parce qu'on peut être expert en des tas de choses. Il y a des experts en entomologie, des experts sur les insectes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont de bons voisins à voir, qu'ils ont une vie pleine d'amour pour leurs proches, leur entourage. Et c'est pas les vains discours, c'est pas la connaissance érudite qui compte. C'est la simplicité de la doctrine chrétienne. Doctrine, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Doctrine, ça veut simplement dire ce que je crois, ce que j'admets comme vérité. Et ces gens qui, des fois, peuvent être si savants, ils oublient même le sens de l'existence. Si vous voulez changer pour l'humoriste, vous pouvez écouter les grands scientifiques de notre temps qu'on monte dans les émissions scientifiques et qui vous parlent de la structure de l'univers. Et si vous êtes un peu simple d'esprit, mais si vous avez du discernement, très vite vous allez reconnaître qu'ils n'en savent absolument rien de cette structure de l'univers. Il suffit de voir les théories qui se contredisent et qu'ils avancent. Il y a un univers qui serait comme une grosse bulle. Oui, mais ça ne rend pas compte de certains phénomènes. Donc on va penser qu'il y a des bulles qui se rejoignent. Un peu comme un cactus qui a des pousses qui grandissent comme ça. Et franchement, vous pouvez aller voir, je ne veux pas que vous preniez à ma parole pour l'évangile, mais allez voir ce que ces scientifiques de grand renom qu'on voit dans... En général, on les interviewe avec un squelette de dinosaure en arrière-plan et des tas de livres pour donner du poids à leurs paroles. Mais en fait, ils ne savent absolument pas de quoi parce qu'ils ont perdu le bon sens. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils affirment. Ils veulent utiliser la loi, les 10 commandements. Paul dit, et c'est très important, la loi est bonne. Nous savons que les 10 commandements, c'est une bonne chose. Mais encore faut-il savoir à quoi elle sert. Et dans les lettres de Paul, on sait que la loi, elle n'est pas là pour nous aider à mériter l'approbation divine. Elle est là pour nous montrer qu'on est tous incapables de la suivre. Et pour nous faire crier vers Dieu, qui va me délivrer de ce corps de mort? Qui va m'aider? Je m'aperçois que je suis incapable de suivre les 10 commandements. D'autant que la loi, elle n'est pas faite pour le juste. Vous savez ça? Si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, la loi elle n'est pas faite pour vous. Ah, vous dites quand même, on va pas se mettre à tuer les gens. Bien sûr que non, parce que la loi, elle est alors écrite sur votre cœur. Vous n'avez plus besoin des 10 commandements pour savoir comment vous comporter. Il y avait un auteur, un pasteur qui expliquait que il avait ramené quelqu'un qui venait de Russie, qui n'était pas très cultivé, aux États-Unis, et cet homme avait vu dans la salle d'attente, il est interdit de cracher sur le sol. Il voyait qu'en fait, les gens ne respectaient pas ce règlement. Il y avait des crachats un peu partout. À l'époque, en plus, on chiquait le tabac, je crois, donc on crachait par terre. Et puis cet homme a été invité à séjourner chez une vieille dame, une chrétienne, qui avait un appartement charmant avec des petits napperons sur les tables, la moquette, les rideaux. Et cet homme disait, il regardait la moquette, il a dit, il n'y a pas de crachat ici. Et pourtant, il n'y a pas de règlement. Et ce qu'il voulait dire, c'est que lorsqu'on est touché par la beauté du lieu, par la beauté et la bonté de celui qui nous accueille, on ne cherche pas à cracher par terre. La loi, elle est faite pour, et c'est la liste de les méchants, les indisciplinés, les impies, ceux qui ne veulent pas plaire à Dieu, les pécheurs. La loi était faite pour moi, pour m'amener à Dieu. Elle est comme un enseignant qui me montre la voie. Les sacrilèges, les profanes, les parricides, ceux qui tuent leurs parents, les matricides. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Les débauchés, les homosexuels. Oups. Aïe, 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 c'est pas politiquement correct. Tant pis. Les trafiquants d'esclaves. Les menteurs. Les parjures. Et puis pour être sûr de n'avoir rien oublié et tout ce qui est opposé à la saine doctrine. Le mot « saint », c'est le mot qui donne le mot « hygiène » en grec. La doctrine de Dieu, elle n'est pas là pour nous empêcher d'avoir du bon temps, elle est là pour nous donner une vie saine, une vie remplie de joie, de but, de dessein, d'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Le glorieux évangile, la bonne nouvelle, c'est ce que veut dire le mot, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, mort pour mes péchés. C'est glorieux, ça. Ça resplendit, c'est brillant. Les Anglais, j'aime bien lorsque quelque chose est intelligent, ils disent « brilliant ». C'est cette même idée, c'est glorieux. Ça brille. Parce que c'est unique. Et Paul disait, cet évangile, il m'a été confié. Et vous dites, ben, ça c'est bien pour l'apôtre Paul, mais moi je m'appelle Pierre ou Jacques, ou vous pouvez mettre votre prénom, c'est pas pour moi. Si vous connaissez l'évangile, si vous avez été touché, si vous avez eu connaissance même des bases très simples de l'évangile, 1 Corinthiens 15, 5, un des résumés bibliques les plus concis. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il a été vu par Céphas, c'était Pierre, puis par les douze, ensuite il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et on a vu sa résurrection. C'est tout. Si vous savez ça, vous pouvez partager ça avec d'autres autour de vous. C'est cet évangile qui vous a été confié. Pas celui de la poudre d'or ou des dents en or ou de la dernière nouveauté. Et rassurez-vous, si vous aimez les nouveautés, il va y en avoir dans les siècles à venir, si Dieu ne vient pas nous chercher rapidement. Paul veut encourager ce jeune protégé. Mais c'est aussi à nous tous qu'il veut parler. Encore une fois, l'importance de la vraie doctrine chrétienne. Parlez de ça entre vous. Et c'est pas parce que des gens sont autour de chrétiens qu'ils sont chrétiens. Si vous avez des opportunités, saisissez-les. S'il y a un enseignement biblique proposé en semaine, faites tous vos efforts pour y participer. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Vous pouvez partager dans votre famille l'évangile. On va vous poser des questions qui vont vous dire « Oh là, je ne sais pas comment répondre à ça. » Et ainsi de suite. Cet évangile, il est glorieux. Amen.